Michel Coll, vous êtes journaliste. Votre avant-dernier livre s'appelait « Les nouveaux penseurs du christianisme ». Comment est-ce que vous êtes passé des nouveaux penseurs aux nouveaux acteurs de la vie monastique avec votre dernier livre « Les messagers du silence »
Écoutez, je suis passionné aujourd'hui par la découverte des métamorphoses du christianisme. En gros, je suis agacé par le refrain sempiternel sur la crise de l'Église, la crise du christianisme. On parle même de la disparition prochaine du christianisme. Je suis profondément agacé et j'entends ça dans mon milieu, dans le milieu journalistique notamment. Et donc j'ai voulu réagir contre ce refrain sempiternel. Et comme maintenant je suis journaliste indépendant, que je n'ai plus de responsabilité rédactionnelle, j'utilise mon temps et ma liberté d'investigation pour justement valoriser les métamorphoses du christianisme. Alors j'ai commencé par réagir à cette idée selon laquelle il n'y aurait plus de penseurs du christianisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, l'encéphalogramme de notre Église serait plat, il n'y aurait plus de théologiens éminents depuis Congar, Chenu, de Lubac et tutti quanti. Je me suis insurgé contre cette idée-là, et donc j'ai exploré le monde intellectuel chrétien en France, et j'ai découvert une dizaine, en France, en Belgique et en Suisse aussi, oui, parce que je souhaite toujours être francophone. Et donc j'ai rencontré, j'ai valorisé 10 personnalités qui, à leur manière, essaient de témoigner d'un christianisme pour aujourd'hui et qui ont le souci de la communication, c'est-à-dire qui utilisent les mots qui sont compréhensibles par nos contemporains. Et puis après, j'ai fait ce saut, comme ce nouveau pas en direction de la vie monastique, parce que c'était un monde qui depuis l'enfance me fascine. Très petit, mes parents m'emmenaient dans des abbayes, j'ai encore les sensations, les senteurs, et j'ai gardé un souvenir olfactif, si vous voulez. Et puis en vieillissant, je me suis toujours intéressé à cette vocation particulière qu'est la vie monastique.
Michel Coll, finalement, vous êtes descendu de la tête au cœur.
Oh, c'est joli. C'est tout à fait ça. Et que pour moi, à la limite, il ne faut pas opposer le cœur et la tête, comme il ne faut pas opposer le corps et l'âme. Je crois que le génie du christianisme, c'est justement, à travers ces paradoxes, a priori, c'est de nous parler de l'essentiel, c'est-à-dire de cette unification de l'être. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'après m'être intéressé au cerveau, je me suis intéressé au cœur. Ça ne veut pas dire que dans la vie monastique, il n'y a pas d'éminent cerveau. Moi, j'ai rencontré des gens superbement intelligents, et je me disais même quel gaspillage, ils sont dans leur monastère. Combien ce serait intéressant que nous puissions profiter, nous tous, de leur science, de leur prise de distance par rapport au monde, à notre monde, toujours plongé dans le bruit, la fureur et le goût de l'action. Et justement, ce qui m'a fasciné chez les moines et les moniales que j'ai rencontrés, j'en ai quand même rencontré en tête à tête 80 dans une vingtaine de monastères, en France, en Belgique, en Suisse, c'est ça, c'est cette capacité à la fois à avoir cette vie intérieure qui nécessite une assaise, un boulot, parce que tous les jours, il faut apprendre à faire silence, apprendre à se mettre en position, en posture physique et spirituelle pour converser avec Dieu. Et Dieu sait que c'est difficile. Et ça, je l'ai compris, ça. Là, une image d'Épinal, comme quoi on a l'impression que les moines, tous les jours, appuient sur un bouton et ils sont en ligne automatique, en lien avec le ciel. Mais c'est pas du tout ça. Et il y a des témoignages dans ce livre qui sont assez éloquents là-dessus, sur la difficulté, justement, à parfois créer un lien avec le Seigneur. Et puis, il y a cette recherche intérieure, il y a cette recherche intellectuelle. Et puis, j'étais très touché aussi par leur proximité avec nous. Ce ne sont pas des êtres déconnectés du réel, ce n'est pas des extraterrestres, ce n'est pas des E.T. de la foi, ou des Superman de la foi, ou des Superwoman de la foi. Ce sont des combattants spirituels. Et ça, on ne le dit pas assez. Un moine, une moniale, ce n'est pas un maître de prière. Ils refusent d'ailleurs. Là. Ceux que j'ai rencontrés ont horreur de ça. Ils disent « le seul maître de prière que nous avons, c'est l'Esprit Saint ».
On s'aperçoit très vite que de toute façon, jour après jour, on ne sait pas prier.
Absolument. Mais c'est ce qu'ils disent eux aussi. J'ai l'image d'un moine trappiste belge qui m'a dit « mais vous savez, on devient moine. Finalement, on prend conscience qu'on est moine, peut-être quelques secondes avant de mourir. Il faut toute une vie pour être moine. On devient en permanence moine. On n'est pas moine comme ça le jour où on fait ses vœux définitifs. C'est le grand saut dans l'infini. Après, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de chercher Dieu.
Alors, l'objectif, c'est de recommencer.
Et l'objectif, c'est tous les jours de recommencer son parcours du combattant spirituel. Et ça, si vous voulez, moi, je trouve que j'ai vécu là une aventure extraordinaire. D'abord, je me suis créé plein d'amis.
Est-ce que finalement, ce parcours a cassé des tas de préjugés?
Eh oui, tout à fait, ça a explosé, ça a pulvérisé un certain nombre d'idées. Bon, je l'évoquais un instant, c'est-à-dire de considérer que le moine est quasiment un saint sur terre. Il est sans peur et sans reproche, c'est un peu le chevalier Bayard de la foi. Et moi, j'ai rencontré des gens qui balbutient devant Dieu, j'aime beaucoup cette expression, c'est-à-dire que ma prière est un balbutiement devant l'Éternel. Ce ne sont pas des supermans de la prière, ce sont des artisans de la prière. Comme me disait un des moines aussi, parce que je lui disais, mais enfin, vous dites ça, mais regardez le monde qui vient participe à vos offices, qui assiste à vos litanies. liturgies qui sont super belles, qui sont magnifiques. Et il me disait, mais oui, et tant mieux si notre témoignage de prière aide les gens à prier. Mais il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes là pour leur apprendre à prier. Les monastères ne sont pas des écoles de prière. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à prier. C'est lui, l'instituteur de la prière.
On va dans un monastère comme on va se promener dans une forêt pour prendre l'air.
Tout à fait. Et regardez, quand vous dites ça, je pense au cloître. Le cloître ressemble à un bosquet, avec souvent au milieu une fontaine ou un petit jardin. Et il y a de cela, tout à fait. Et d'ailleurs, une expérience que j'ai vécue aussi dans mon exploration monastique, c'est que les moines et les moniales m'ont rapproché de la nature. Manger en silence, manger le produit du travail des mains, le fruit de leur travail quotidien, parce qu'ils travaillent, il ne faut pas oublier quand même, ils travaillent énormément, vous rapproche de la nature. Et je vais vous faire une confidence, je suis redevenu plus gourmet après mon voyage chez les moines. J'ai retrouvé, moi qui mangeais peut-être vite, parce qu'on vit dans une vie agitée, on a toujours des rendez-vous. Alors là, vous êtes dans le silence, vous êtes dans un autre rythme qui est scandé par les offices, mais aussi par les temps de partage à table. Et ce sont des moments très très importants. Ça se fait en silence, mais il se passe là quelque chose d'extraordinaire. Et notamment le rapport à la nourriture, à l'entretien du corps, à l'importance de la saveur. Et en effet, quand on est dans le silence, qu'on n'est pas distrait par d'autres choses, par des émissions de la musique, et qu'on est en rapport direct aussi avec sa nourriture, eh bien, il y a une communion qui s'effectue avec l'élément naturel. Ça a été aussi une découverte. Et je trouve qu'il y a, dans la vie monastique, une exigence de frugalité. Parce qu'il y a une frugalité joyeuse dans la vie monastique. Et ça, si vous voulez, on le retrouve notamment dans ce partage du pain avec eux. Et là encore aussi, il y a une image qu'il faut briser, c'est l'image du moine ou de la moniale, retranché loin du monde, abîmé en permanence dans la prière, qui ne rit jamais. Mais moi, je n'ai jamais vu d'aussi beau rire et d'aussi beau sourire que dans les monastères. Un sourire qui irradie, je dirais, de ce rapport à la parole du Dieu vivant, et aussi de toutes les paroles que les moines recueillent à l'hôtellerie, où de nombreuses personnes viennent les voir, viennent déposer leurs fardeaux, viennent leur parler de leurs problèmes, de leurs questions, de leurs interrogations. Et c'est là, je me dis aussi qu'on oublie une chose, c'est que les communautés monastiques sont devenues des oasis de liberté. Nombre de gens vont dans les communautés monastiques aujourd'hui parce qu'ils savent qu'on ne leur demandera pas leur identité, on ne leur demandera pas s'ils vont à la messe tous les dimanches, on ne leur fera pas un examen de santé de leur foi. On les accueille tels qu'ils sont et on les écoute. Donc les moines sont aussi des écoutants. Ce sont des silencieux, mais des silencieux préparés à l'écoute, à une écoute qui, je trouve, se dilue, se perd. On vit dans un grand monde de communication, mais finalement, on s'écoute peu. On parle beaucoup, on a des pseudo-dialogues, mais est-ce qu'on se parle les uns aux autres? Et moi, je dirais que durant cette année où j'ai vécu au rythme de la cloche monastique, au rythme de la vie monastique, j'ai découvert des écoutants fantastiques. Et ils m'ont appris, moi, qui suis aussi un parlant, un journaliste qui parle beaucoup, j'ai appris à écouter. Et je sais qu'écouter demande aussi un travail. C'est pas facile d'écouter, ça demande aussi une préparation. Et le silence pour cela est l'antichambre du dialogue et de la rencontre. Ça, je l'ai profondément appris en regardant vivre les moines et les moniales que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que vraiment se mettre en silence, en apaisant son corps, en apaisant son intériorité, on est tout à fait là, disponible pour écouter l'autre davantage. Et c'est pour ça que nombre de monastères que j'ai visités sont des lieux souvent pionniers en matière de dialogue interreligieux, de dialogue œcuménique. Et je tiens à le souligner aussi parce que je trouve qu'on l'oublie un petit peu. Et ça a été un grand message du Concile Vatican II, du dialogue avec les incroyants et les agnostiques. Je crois qu'il ne faut pas oublier aussi ce dialogue-là. Le dialogue interreligieux est très important, primordial, mais n'oublions pas le dialogue avec les athées et avec les agnostiques. Je crois que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'agnostiques. La question sur les grandes finalités de la vie aujourd'hui taraude un nombre incroyable de gens. Les monastères sont visités par nombre de ces gens-là parce qu'ils savent que là, on ne leur fera aucun procès, on ne leur rappellera aucun dogme, on les écoutera, on les entendra avec amour, avec intérêt et pas forcément avec des réponses ficelées toutes faites. Mais simplement l'écoute. Et les gens ont besoin aujourd'hui de lieux où ils puissent déposer leur fardeau et se mettre à table pour témoigner, pour se confier. Et je crois que les communautés monastiques sont des lieux précieux où des gens peuvent se refaire une santé parce qu'ils sont écoutés et donc aimés.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, le christianisme que vous avez découvert ou redécouvert, c'est un christianisme incarné et que quand le christianisme s'incarne, il devient lieu de communion ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que l'aventure monastique, pour moi, telle que je l'ai reçue du témoignage de ces hommes et de ces femmes que j'ai rencontrés, parce que ce sont d'abord des hommes et des femmes, justement, qui nous rappellent que la grande aventure du christianisme, c'est une aventure d'incarnation.
Thank you.